Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
La Moldavie à la croisée des chemins avec deux candidats qui vont s'affronter dimanche pour le second tour de la présidentielle. L'un regarde vers Moscou, c'est le président sortant Igor Dodon. L'autre vers l'Union européenne, c'est l'ancienne première ministre Maia Sandu. Elle est arrivée en tête au premier tour le 1er novembre dernier, près de 4 points devant l'actuel chef de l'État socialiste, partisan d'un renforcement des liens avec la Russie. La bataille du second tour promet d'être serrée. Portrait des deux candidats avec Anastasia Bekele.
Oubliez la parenthèse où les deux concurrents d'aujourd'hui avaient conclu une alliance de circonstances pour débarrasser la Moldavie du très influent oligarque Vladimir Plahotniuc. L'an dernier, Maia Sandu était devenue chef d'un gouvernement de centre-droit sous la présidence du socialiste Igor Dodon, mais l'alliance a volé en éclats. Le camp du chef de l'État sort la grosse artillerie, comme le raconte Nicu Popescu, chercheur en politique et ministre des Affaires étrangères du gouvernement Sandu.
Il fait une campagne qui est assez similaire maintenant à Donald Trump, par exemple, où il essaie de diviser. Il a aussi essayé de présenter Maia Sandu en tant que quelqu'un qui contre les valeurs traditionnelles, contre les familles, qui soutient le mariage pour tout, ce qui n'est pas vrai parce que ça fait pas partie vraiment du positionnement politique de Maia Sandu, mais en tout cas, il essaie de l'attaquer de ce côté-là, un peu menant une campagne un peu à la Trump.
À 45 ans, le président sortant en poste depuis 2016 a derrière lui les principales chaînes de télévision du pays, sans compter le soutien des médias russes. Une tribune qui lui permet de diffuser largement de fausses informations sur sa concurrente, selon Valeriu Pacha du groupe de réflexion Watchdog.md à Chișinău.
Le président Dodon a donné une conférence de presse. En une demi-heure, on a comptabilisé au moins 15 fausses informations de sa part. Son équipe veut provoquer la peur dans la population en racontant par exemple que si Maia Sandu était élue, ça serait la guerre, que la langue russe serait interdite, qu'on obligerait les enfants dès le CP à suivre des cours d'éducation sexuelle, ou que des homosexuels allaient investir nos villages.
Ancien ministre de l'économie dans un gouvernement communiste, Igor Dodon promet la poursuite d'une coopération bénéfique avec la Russie et l'apprentissage obligatoire du russe à l'école dans ce pays majoritairement roumanophone. Sa rivale plaide pour une intégration de la Moldavie dans l'Union européenne et pour faire revenir au pays le million de Moldaves qui travaillent à l'étranger.
Notre objectif commun est de créer de l'emploi, augmenter les salaires, les retraites et les allocations.
Maia Sandu, 48 ans, diplômée de Harvard et passée par la Banque mondiale, fait de la lutte contre la corruption son principal cheval de bataille. Si le président a été éclaboussé par plusieurs scandales, sa rivale n'a jamais été compromise dans une affaire douteuse, comme le souligne son ancien chef de la diplomatie, Nicu Popescu.
C'est quelqu'un de très très rigoureux dans ce qu'elle fait. C'est quelqu'un de très correct dans les relations avec tous les gens, tous ses collègues, ses subordonnés. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout corrompu et il a vraiment une tolérance zéro vers tout ce qui est corruption dans son entourage ou parmi ses collègues. C'est quelqu'un aussi qui est très très respecté à niveau international. On a eu plusieurs fois Angela Merkel qui l'a soutenu et aussi inclus pendant cette campagne. C'est quelqu'un qui peut ouvrir des portes et peut mettre la Moldavie sur un bon pied au niveau international pour que le pays puisse se développer en réduisant la corruption et en développant l'économie.
À la tête du pays, Igor Dodon n'a pas donné une image très dynamique de son pays, estime pour sa part Valeriu Pacha.
C'est un homme qui en 4 ans n'a pas effectué une seule visite officielle dans l'Union européenne, à l'exception d'une visite à Viktor Orban en Hongrie pour une demi-journée. Et quand il se rend à Moscou, il n'est pas reçu par le président, mais par un représentant de son administration qui le traite comme un subalterne.
Les observateurs n'excluent pas des mouvements de protestation post-électoraux. Avant le premier tour, le patron du renseignement extérieur russe, Sergueï Narychkine, avait accusé Washington de fomenter un scénario révolutionnaire en Moldavie.
Rangta camurra è mafia, è società organizzata. Rangta camurra è mafia,
Sicilia, Napoli, Calabria, Onorata.
Ercolano, dans le sud de l'Italie, est la première ville à ne plus payer l'impôt mafieux. La révolution a commencé en 2004. Les habitants de cette petite cité de 55 000 habitants se sont mis à refuser de payer le pizzo, ce racket de la mafia qui durait depuis des années. Une liberté défendue avec acharnement par le maire et les commerçants de la ville. Reportage de Louis Seyé.
Il y en a du monde entier et il y a aussi les reportages des télévisions. On me les a envoyés. Regarde là, il y a tous les articles de presse sur moi.
En italien, en allemand, en anglais, elle ne compte plus les reportages qui racontent son histoire. Raffaella Ottaviano est la première à avoir dit non. Non au pizzo, le racket organisé par les clans mafieux du sud de l'Italie. Vert fumé et gilet impeccable, Raffaella l'assure, en expulsant les petites mains de la Camorra de sa boutique de prêt-à-porter, elle a transformé Ercolano. Il y a 10 ans, tous les commerçants de cette ville du sud de Naples devaient se mettre en règle avec la mafia.
Le modèle Ercolano, c'est moi. Parce que juste après le passage des camorristes dans ma boutique, je suis devenue un modèle parce que je suis allée porter plainte contre eux. Et j'ai fait ce qu'il fallait faire parce que si on ne les dénonce pas, ils reviennent. Maintenant, on n'est plus tranquille.
Restaurateurs, entrepreneurs ou même prêtres, jusqu'à la fin des années 2000, tout le monde payait le pizzo à Ercolano. La cité vésuvienne était ravagée par la guerre des gangs qui terrorisait les commerçants. À quelques pas des articles de mode de Raffaella, Sofia Cirillo se souvient avec émotion de ces années difficiles. Fin 2009, avec son mari, ils ouvrent leur boulangerie dans le centre d'Arcolano et ils reçoivent rapidement la visite de 6 hommes de la Camorra.
Mon expérience avec ces gens-là était brutale, féroce. Dès nos débuts, ils sont venus nous menacer et ils nous ont fait comprendre très clairement que l'on devait payer ce pizzo, comme tout le monde le faisait. Parce qu'à Ercolano, c'est la culture. Celui qui naît ici, il sait déjà qu'il doit payer ce pizzo, parce que c'est comme ça.
Le prix pour faire du pain à Ercolano, 5 000 euros à payer comptant avant Noël et un loyer de 500 euros mensuel. L'impôt levé par la Camorra a révolté les jeunes boulangers.
À partir de là, on a opposé un refus total parce que nous, c'était juste inacceptable de devoir payer une telle somme. Et donc, comme ils ont vu qu'on résistait, ils sont revenus avec des armes à la main, mais on a encore refusé de payer. Et à la fin, on a subi une attaque à la dynamite.
Raquettes et attentats, mais aussi règlements de compte et victimes innocentes. Plongés dans les conséquences de la crise économique de 2008, les habitants d'Ercolano n'en peuvent plus des violences quotidiennes qui font presque un mort par semaine. Fin 2009, une association organise une manifestation contre la mainmise de la Camorra sur la ville. À la surprise des organisateurs, ils sont des milliers à y participer. Les commerçants reprennent confiance et ils sont de plus en plus nombreux à briser l'omerta.
Après la plainte de Raffaella, celle de Pasquale Del Prete, celle de Mauricio Focco, la mienne, après il y a eu une marée de plaintes, 49 plaintes. Et se rendre compte de cette réalité, parce que c'est ça la réalité, ça te rend plus fort. On sait qu'on est nombreux.
À la mairie, au tribunal ou à la gendarmerie, les habitants d'Ercolano apprennent à faire confiance aux institutions pour les protéger de la Camorra. Dans les années qui suivent, 250 mafieux sont mis sous les verrous. Déraquettisé, Ercolano est devenu un modèle pour d'autres villes d'Italie, comme l'explique Pasquale Del Prete, président de l'association anti-raquette d'Ercolano.
Ce modèle s'est en quelque sorte exporté un peu partout, mais il n'a pas toujours eu les mêmes résultats que nous avons obtenus ici à Ercolano. Parce qu'il faut la rébellion des commerçants. Mais il faut aussi que dans l'administration, les bonnes personnes soient aux bonnes fonctions. Parce que c'est grâce à la confiance que nous avons remporté cette victoire. On a d'abord réussi à se faire confiance entre nous et puis on a pu faire confiance aux représentants de l'État. On a pu faire confiance à l'État parce qu'on a trouvé les bonnes personnes.
Si le pizzo n'est plus qu'un phénomène marginal, la Camorra n'a pas disparu des rues colorées d'Ercolano. Les commerçants subissent aujourd'hui des pratiques moins visibles, mais tout aussi sournoises. Notamment quand la mafia se substitue aux banques auprès des entreprises en difficulté.
Un phénomène qui augmente aujourd'hui et qui est préoccupant, ce sont les prêts usuriers. Parce que la Camorra dispose de beaucoup d'argent liquide et d'un capital considérable qu'elle doit investir. Par exemple, dans les activités commerciales. Et quand elle se porte au secours des commerçants dans le besoin, elle les met aussi en difficulté, car elle les tient. Nous avons réussi à éradiquer le phénomène de l'extorsion, mais malheureusement, les groupes criminels, la Camorra, la Ndrangheta, diversifient leurs activités vers des secteurs qui leur conviennent mieux économiquement et qui présentent moins de risques.
Alors que le reconfinement italien plonge de nouveau des milliers d'entreprises au bord du gouffre, beaucoup à Ercolano redoutent les conséquences de la Covid-19. Dans la restauration, l'agroalimentaire, la grande distribution ou le BTP, la Camorra profite de la crise sanitaire pour étendre sa mainmise sur les entreprises. Les autorités italiennes ont annoncé récemment un nombre record de mesures pour endiguer ces infiltrations de la mafia dans l'économie légale.
Le Premier ministre va reprendre la parole ce jeudi. On saura alors si les autorités desserrent ou resserrent l'étau pour tenter de ralentir la progression du Covid-19. Si le nombre de contaminations continue de progresser en France et en Europe, l'annonce par l'américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech d'un possible vaccin contre le coronavirus suscite beaucoup d'espoir. Est-ce qu'on va pouvoir se protéger, protéger nos proches? Est-ce que l'économie va reprendre? Est-ce qu'on va pouvoir retourner danser? Le monde de la nuit à l'arrêt depuis le début de la pandémie l'espère et s'adapte. Accent d'Europe vous emmène à Strasbourg, dans l'est de la France, dans une école, la Longevity Music School, qui forme notamment les DJ de demain. Elle permet à des élèves de tout âge d'apprendre à se servir des ordinateurs et des machines pour composer de la techno, de la house, du hip-hop. C'est d'ailleurs leur musique que vous entendez en ce moment et c'est un reportage de Robin Dussel.
Ça, comment je fais pour le rendre intéressant, enfin rythmiquement, que ça fonctionne avec mon tempo? Il suffit de prendre là-dedans une boucle, quoi, d'une mesure ou deux mesures.
Derrière leur écran d'ordinateur, 8 élèves, tous des adultes, écoutent religieusement les conseils de Fred, leur prof de musique électronique. Bienvenue à la Longevity Music School. Installée au deuxième étage du Shadok, un espace dédié aux cultures numériques à Strasbourg, l'école a été créée en février 2018 et vient donc de faire sa troisième rentrée. Le cursus STAR, c'est la formation de producteurs, 90 heures de cours d'octobre à juin pour seulement 16 élèves répartis en deux groupes.
Je m'entraînais tout seul sur des logiciels que je ne maîtrisais pas avec du matériel inadapté, en y passant du temps et de l'énergie par passion, mais sans savoir qu'on pouvait en donner des cours et qu'il y avait du logiciel adapté.
Alex a 34 ans, médecin stomatologue dans la vie, il est passionné d'électro depuis l'adolescence. La reconversion professionnelle pour devenir DJ n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Alors pour lui, cette formation en cours du soir, c'est du pur plaisir.
Je vis d'autres choses. J'ai d'autres compétences et qui me prennent déjà beaucoup de temps. Donc j'ai pas de pression. J'aimerais beaucoup faire des morceaux qui fassent rêver les gens. J'ai pas besoin d'en vivre. Je veux sublimer les choses, faire quelque chose de bien. On sait jamais, on peut rêver. Mais si dans 5, 10, 15 ans, je peux faire des belles choses et je peux percer, à ce moment-là, je convertirai mon boulot. Parce que mon boulot à l'heure actuelle, c'est comme bien des gens, c'est un boulot.
Là, si je joue, il se passe rien. Il n'y a pas de son. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est armer la piste. Là, j'ai du son. Je change d'octave.
À la différence de son collègue, Pau Dukima a déjà un pied dans le milieu artistique. Autrice, compositrice, interprète, la jeune femme s'est lancée à fond dans la musique depuis un an et cherche désormais à composer ses propres instrus.
Pouvoir créer mes propres prods, c'est ça qui m'importe, parce que quand tu le fais avec quelqu'un qui fait des prods pour toi, c'est génial, c'est magique, quand ça match, mais ça reste quand même pas ta patte à fond, à 100%. Donc ça, j'aimerais bien voir ce que ça donne quand j'arrive vers une prod et pouvoir les faire moi-même et être autonome aussi, pas devoir attendre sur les autres.
Dans cet univers très masculin, seulement 3 femmes sur 16 suivent la formation. Pao craignait que son projet pop aux sonorités méditerranéennes ne fasse tache, mais la Mulhousienne de 30 ans a vite été rassurée par les co-gérants de l'école.
C'est pas que de la musique électronique, je pensais que c'était vraiment électro. Fred,
le responsable des cours,
il m'a dit que pas du tout, il m'a rassuré tout de suite. Justement, c'est, ça pouvait être pour tous les styles, qu'il n'y avait pas que moi qui faisait de la pop ou du hip-hop, il y en avait d'autres. Et de toute façon, dans la trap, dans le hip-hop, c'est des bases aussi électroniques. Maintenant, on a du mal à différencier parfois les deux, parce que des beats de rappeurs, bah, c'est vachement électro parfois. Du coup, les deux se rejoignent.
S'ouvrir à tous les styles, c'est le pari qu'a pris la jeune école de musique électronique strasbourgeoise. Il n'empêche qu'en cette période de pandémie, c'est tout le monde de la nuit qui est aux abois. Les clubs sont fermés, les festivals annulés, mais plutôt que de s'apitoyer, Alex préfère voir le côté positif.
On ne peut pas y aller pour danser, donc on ne perd pas son temps, on est chez soi et on peut le pratiquer. Il y aura un avant, il y aura un après. Il y aura toujours des fêtes, peut-être avec moins de monde, peut-être moins officiel, peut-être sur une autre logistique. Et il y aura aussi besoin de ces acteurs. J'espère que les acteurs qui ne vivent que de ça vont tenir le coup et seront toujours là après. Mais plus on est créateur, plus ce sera beau. Donc, non, je pense qu'au contraire, c'est un bon créneau.
À la Longevity Music School, on apprend donc à mixer, à créer ses arrangements, mais pas seulement. Fred Traverso est musicien et l'un des cofondateurs.
Un truc important, c'est que nos formations ne se dirigent pas uniquement vers la musique électronique, le DJ. On a aussi tout un panel d'élèves, par exemple, qui vont se diriger vers la musique de jeux vidéo, le sound design. On est très large, du coup, l'idée, c'est la musique électronique qui est au centre de plein d'activités aujourd'hui, qui est partout, et pas uniquement sur le club, sur le festival.
C'est important d'avoir conscience de ça.
Guillaume Azambre, l'autre responsable de l'école.
De ces nouvelles pratiques et de ce qu'elles génèrent aujourd'hui. Et c'est pour ça que des gens sont encore là, en tout cas, pour participer à nos cours et nos formations.
Plusieurs pays européens ont renoué avec le confinement, les restrictions de déplacement. Alors avec Vincent Teval, Accent d'Europe a décidé de vous faire voyager en musique. Une chronique supplémentaire que nous retrouverons en début de semaine, en plus de notre rendez-vous du vendredi. Et pour cette première envie d'ailleurs, Vincent, vous nous emmenez loin. Bonjour.
Bonjour Juliette.
Je vous propose de nous rendre sur les îles Féroé avec le Breton Yann Tiersen. Imaginez ces paysages grandioses, nés d'une éruption volcanique, un flot de roches noires sorties d'une mer déchaînée, un paysage lunaire dans le vent et le silence, dans la lumière et les ombres, et puis l'apparition d'une terre verte. C'est cette naissance que décrit Yann Tiersen dans la chanson « Grognjord », « Terre verte », interprétée par le chanteur féroïen Olavur Jakobsson. C'était sur l'album Infinity, en 2014, un disque grand ouvert aux éléments, conçu entre Ouessant, l'Islande et les îles Féroé, une bouffée d'air frais et d'embrun.
Inspiration, Yann Tiersen, Grognjord, à vendredi Vincent Teval. Accent d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui avec la réalisation Victor Hull. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute. À bientôt.